En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Quelle est la place de l'émotion, de la morale et de l'éthique en politique, dans les médias et le monde de la finance, trois pouvoirs bien distincts. Comprendre comment l'homme et la société s'influencent mutuellement, et cela à travers plusieurs disciplines telles que le droit, la philosophie, les neurosciences, c'était l'objectif de ce troisième et dernier colloque intitulé « Regard sur l'homme contemporain » qui s'est déroulé en mai 2011 à l'Institut de France et dont Canal Académie était partenaire de l'événement. Nous vous proposons la retransmission intégrale des interventions et cela en quatre parties. Dans ce premier volet, retrouvez les propos introductifs de Bérénice Tournafond, l'organisatrice de ce colloque, ainsi que l'intervention de Pierre Manant, historien et philosophe. Il évoque la place de la politique dans la vie humaine. On retrouve tout de suite Bérénice Tournafond.
Dans une première partie qui concernait l'apport fondamental des sciences sur l'individualité et le comportement humain, nous avions fait état des découvertes récentes en génomique, en immunologie et en neurosciences, découvertes qui révèlent partiellement les liens entre les émotions, les comportements et le fonctionnement du corps humain. Nous savons désormais de plus en plus précisément, grâce à la biologie, que nos émotions et nos comportements sont interdépendants de notre constitution physique et de notre environnement extérieur. Par exemple, la peur ou l'enthousiasme ressenti dans une situation de stress professionnel vont provoquer des réactions qui peuvent être très fortes et très complexes et bouleverser notre équilibre physiologique et notre perception du monde extérieur. Les récents conflits qui ont éclaté dans des sociétés comme Orange ou Renault en sont d'ailleurs une illustration. Mais nous ne sommes pas que de la matière. Nous sommes aussi des êtres spirituels et, en plus de notre constitution physique et de notre environnement, la façon dont nous allons ressentir une situation de stress va également dépendre d'autres facteurs, tels que nos croyances, qu'elles soient religieuses ou non, ou encore de la conscience que nous avons de la situation. Par exemple, l'on a découvert, dans les années 50, qu'un placebo pouvait améliorer dans une proportion de 30% l'état de santé des patients. On a même montré, grâce à l'imagerie cérébrale, comment le cerveau libérait les substances nécessaires à la guérison du patient à la suite de la prise d'un placebo. Et d'après de récentes études sur la neurobiologie de la croyance religieuse, il apparaît que la sérotonine, qui régule l'humeur, joue un rôle essentiel dans la foi et l'extase mystique. Et sans faire de recherche approfondie, on connaît depuis la plus haute antiquité le lien entre le corps et la passion amoureuse. C'est ce qui nous a amené dans un deuxième colloque à parler cette fois plus spécifiquement de l'influence de la spiritualité, de la morale et de la conscience collective, car elles jouent un rôle fondamental sur l'individualité et le comportement, et elles ont une incidence, mal connue encore à ce jour mais certaine, sur notre santé. Mais nous avons essentiellement parlé, lors de ces deux premiers colloques, des réactions de l'homme contemporain sur un plan individuel, sans étudier plus en détail l'impact de la société dans laquelle nous vivons, impact de la société sur nos comportements, sur nos émotions. Or, nous sommes en permanence transformés par notre environnement. Nous sommes en interdépendance et en interaction constante avec le monde extérieur. C'est donc essentiellement à cette question que nous avons consacré ce troisième colloque, puisqu'il s'agira, tout au long de cette journée, d'examiner l'influence de la politique et des médias sur notre individualité. Nous parlerons de l'influence de la politique puisque sa fonction première est justement de diriger et de gérer la société, et par conséquent les relations sociales, en tenant compte bien évidemment de tous les facteurs environnementaux. Or, nous savons désormais que toutes les relations que nous avons sont de nature à modifier notre constitution et nos comportements. Nous sommes constamment influencés par les autres et par la société dans laquelle nous vivons. De même que nous sommes constitués d'une multitude de corps étrangers, comme les bactéries qui peuplent notre système digestif, bactéries dont nous avons besoin pour vivre d'ailleurs, nous sommes en permanence transformés physiquement et psychiquement par l'environnement social. Chacun peut en faire l'expérience quotidiennement. Et pourtant, nous connaissons très mal la façon dont s'opèrent les interactions entre l'organisation sociale, institutionnelle, juridique, économique et nous-mêmes, notre nature humaine. Et alors même qu'une multitude de disciplines, telles que la sociologie, la médecine, le droit, l'économie, etc., tentent d'en percer les secrets. Mais ces interactions sont en réalité très complexes à déchiffrer et à analyser, car elles font intervenir une multitude de paramètres et de domaines d'études. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, les politiques ne peuvent jamais réellement savoir quelles seront les conséquences finales des décisions qu'ils prennent. Bien souvent, les lois qu'ils votent ne sont pas appliquées ou ne donnent pas les résultats qui étaient escomptés, ou encore parfois même donnent des résultats complètement opposés. Et cela, alors même que ces lois vont modifier les règles du jeu social et, par voie de conséquence, notre vision du monde, de l'autre et nos comportements. Or, seule une vision globale interdisciplinaire peut permettre de mieux appréhender ces interactions et mieux comprendre, par conséquent, les comportements de l'homme contemporain. Autrefois, l'on avait une vision synthétique de l'homme. L'on estimait qu'il n'y avait pas lieu de dissocier l'individu de la société, la personne étant partie intégrante de ce corps bien plus vaste qu'était le corps social. La condition terrestre des individus était considérée comme accessoire. Socialement, seule la continuité par la famille et l'appartenance à un corps social importaient, et individuellement, seul le salut de l'âme comptait. Cette conception traditionnelle, axée sur la primauté du spirituel et mettant l'accent sur les liens d'interdépendance de l'homme et de la société, a permis d'ailleurs pendant des siècles à la civilisation de se développer, et cela en dépit de moyens matériels et techniques très limités. Désormais, l'individu est au contraire avant tout considéré comme une personne à part entière, indépendante du corps social. La pensée moderne a en effet une conception de l'homme et de la société que l'on pourrait qualifier d'essentiellement matérielle et analytique. Cette vision de l'homme et du monde a permis de parvenir à un développement scientifique et économique et à des réalisations techniques tout à fait remarquables, dont on ne saurait aujourd'hui se passer d'ailleurs tant elles ont apporté d'avantages matériels. Mais en même temps, cette vision du monde apparaît également tronquée, insuffisante. Comme nous l'avons vu lors de nos précédents colloques, les découvertes scientifiques récentes montrent d'ailleurs le caractère insuffisant d'une telle conception. Nous ne sommes pas une somme d'individus égoïstes et isolés. Et je me demande dans quelle mesure cette idée fausse de ce que nous sommes ne génère pas un malaise collectif, une atmosphère délétère. D'autant que ces conceptions de l'homme que nous venons d'évoquer vont influencer la façon dont la société va être structurée, organisée. Elles correspondent d'ailleurs à des systèmes politiques complètement différents, même diamétralement opposés. Depuis la Révolution française, et du fait de la complexité croissante du monde moderne, liée à la révolution industrielle et technicienne, on a progressivement perdu de vue les liens d'interdépendance autrefois si importants entre l'homme et la société. Ce que l'on peut espérer aujourd'hui, c'est que nous arriverons à dégager donc cette vision globale, plus intégrative de l'homme contemporain, grâce peut-être justement à une meilleure connaissance de ses interactions. Une vision de l'homme qui soit plus proche de la réalité et qui nous permettrait de trouver de nouveaux systèmes politiques qui correspondraient mieux à ce que nous sommes, à nos aspirations profondes, et non pas, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui, des modèles de société qui conduisent à la satisfaction d'intérêts égoïstes et à courte vue, ou aux caprices de l'opinion publique du moment. Car comme le disait récemment Mme Mireille Delmas-Marty, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, lors d'une interview sur le droit à l'imagination, « Il n'y a pas les réalistes d'un côté et les idéalistes de l'autre. Il faut, si l'on veut rester en prise avec la réalité, imaginer de nouveaux modèles, de nouvelles structures. » Trouver une nouvelle structure permettrait d'améliorer les relations sociales, aujourd'hui de plus en plus difficiles et dénaturées. Ce qui est logique lorsqu'on sait qu'elles sont intimement liées au fonctionnement et aux structures de la société, mais également au fondement même des systèmes politiques. Ce que confirme d'ailleurs le président de l'Académie des sciences morales et politiques, Jean Béchler, dans son ouvrage « Qu'est-ce que la vérité ?», puisqu'il dit, je cite, « Les idéologies sont des déviations, ce sont des produits de la faillibilité humaine, qui définissent un certain régime politique et une certaine manière de vivre en société. » Ainsi, ce que nous souhaitons avant tout montrer à travers ce cycle de conférences, c'est l'importance de s'orienter vers une conception globale et interdisciplinaire des propriétés et mécanismes qui interviennent dans le fonctionnement du vivant pour mieux comprendre l'homme contemporain. Ce qui manque à notre civilisation, d'ailleurs, c'est sans doute la science des interactions. Nous pensons que cette connaissance pourra apporter des remèdes aux maux dont souffrent aujourd'hui nos sociétés modernes. De telle sorte qu'à l'instar de la médecine systémique, la politique systémique pourrait être une des solutions pour l'amélioration de la prise de décision politique. C'est-à-dire arriver à construire des modèles qui prennent en compte un maximum de paramètres, de facteurs et d'interactions culturelles, sociales, économiques, personnelles, pour aider à définir une politique raisonnable, tant sur le court que sur le long terme, de façon à ne pas se fier à la seule compétence des hommes politiques, qui, comme chacun sait, n'ont pas toujours ni le temps, ni la connaissance, ni même parfois le pouvoir de prendre la meilleure décision. Dès lors, nous consacrerons la première partie de la matinée, dans cet esprit de recherche des liens d'interdépendance entre l'homme et la société, à la question du sens de la politique. Quelle est la raison d'être de la politique? Quels sont ses fondements philosophiques, ses liens avec la morale, mais aussi de quelle façon est-elle organisée, structurée, institutionnalisée, et quelles en sont les incidences sur les comportements? On dénonce sans cesse une méfiance croissante de la population à l'endroit de la classe politique et un taux d'abstention aux élections bien souvent très élevé. Une population qui ne se reconnaît plus dans la classe politique dirigeante. Les sondages sont parfois édifiants à ce sujet. L'enquête Ipsos réalisée en 2006 auprès des 18-24 ans montre à quel point les jeunes sont éloignés des schémas politiques traditionnels. Ils déclarent à 79% avoir une mauvaise image des responsables politiques, qu'ils considèrent comme peu représentatifs de la société actuelle, et sourds à leurs préoccupations. Ils ne sont majoritairement proches d'aucun parti, et pourtant la majorité de ces jeunes déclarent s'intéresser à la politique. Face à ce constat, le professeur Pierre Manant répondra, avec le point de vue du philosophe et de l'historien, à cette question primordiale pour mieux comprendre le sens de la politique aujourd'hui: quelle est la place de la politique dans la vie humaine? Pour diriger et pour gérer une société, il est évidemment nécessaire d'avoir des objectifs clairs et précis. Ces objectifs sont en principe, en France du moins, devraient pour le bien commun, pour l'intérêt général. Mais alors, le problème est-il bien posé? La relativité réciproque des notions de bien et de mal, mise en lumière par Nietzsche, ou en tout cas leur extrême subtilité, est-elle d'ailleurs compatible avec le caractère plus ou moins rudimentaire de tout système politique, si perfectionné soit-il? Faire de l'État le défenseur du bien contre le mal, c'est courir le risque d'accoucher d'un État totalitaire. « Qui fait l'ange fait la bête », dit le vieux proverbe. Madame Monique Cantos-Perber, directrice de l'École normale supérieure, interviendra à ce sujet sur le thème « Intérêt général et bien commun, politique et morale ». Après la raison d'être de la politique et les objectifs qu'elle poursuit, force est de constater que sans moyens, sans structure, elle ne peut rien. C'est donc à propos de l'organisation institutionnelle qu'interviendra le professeur Philippe Loveau. À ce sujet, il est clair que les institutions, les structures politiques, économiques et sociales ne suivent pas la vitesse de développement des idées, des progrès techniques et de l'évolution de la société. Dans la deuxième partie de la matinée, intitulée « Action politique, réaction de l'individu », le professeur Alain Berthoz évoquera le sujet des neurosciences sociales, c'est-à-dire la façon dont la biologie commence à déchiffrer l'impact matériel des relations humaines sur la physiologie du cerveau. Ensuite, Catherine Rouvier nous parlera de l'influence des émotions en politique. La politique est en principe conçue comme la direction et la gestion de la société, mais dans le système politique actuel où la compétition élective incite aussi les hommes et les femmes politiques à lutter pour avoir et garder le pouvoir, la politique et ce que l'on appelle la politique politicienne sont bien souvent confondus. Quoi qu'il en soit, la politique, dans tous les sens du terme, a, semble-t-il, tout à voir avec l'émotion. C'est entre autres ce que montre le psychologue Drew Weston dans une étude sur la rhétorique politique gagnante. Contrairement à ce que voudrait le sens commun, nous ne sommes pas influencés par les meilleurs arguments politiques, mais plutôt par ceux qui nous émeuvent. Il semble donc que nous ne sommes pas raisonnables dans les choix politiques que nous faisons. Nous n'avons pas tant des idées politiques que des sentiments politiques. C'est de cela, notamment, dont nous parlera Catherine Rouvier, politique, émotion et raison. Immédiatement après la question des émotions vient celle des intérêts, et dans ce cas, force est de constater que pour la majorité de nos contemporains, les intérêts particuliers passent souvent avant l'intérêt général. Ne serait-ce que parce que nous n'avons pas forcément une idée très précise de ce qu'est l'intérêt général. Il est d'ailleurs souvent confondu avec l'intérêt de l'État, et dans une société très individualiste, l'intérêt général apparaît comme un concept flou, abstrait et peu rassembleur. C'est à ce sujet qu'interviendra Monsieur le ministre François Daubert. intérêt général, intérêt de l'État et intérêt particulier, éthique et finance. La question des intérêts et de l'éthique nous amène donc d'ailleurs nécessairement à celle du désintérêt. Comment est-ce que l'altruisme et la politique peuvent-ils être mêlés? Et c'est à ce sujet que le professeur Philippe Kourilski interviendra à l'occasion d'une intervention sur l'altruisme et la politique. La conclusion de la matinée sera faite par le professeur François Théré. Puis cet après-midi, nous retrouverons dans la salle des cinq académies, qui se trouve juste au-dessus de celle-ci, au troisième étage par les escaliers, je crois que c'est le cinquième étage par l'ascenseur, pour une table ronde sur le thème « Médias, émotions et politique ». Plusieurs questions y seront discutées. Le pouvoir des médias aujourd'hui ne remplace-t-il pas celui du politique? Est-ce que le politique ne fait pas plus du médiatique que de la politique? Des questions sur les liens entre la science, la société, les émotions. Enfin, toutes ces questions et bien d'autres seront débattues lors de cette table ronde qui sera présidée par Gilles Leclerc, président directeur général de la chaîne publique Sénat. Et enfin, la conclusion de la journée sera assurée par le professeur François Gros. Voilà, pour finir, vous me pardonnerez de citer Marx, mais vous allez voir que ce point est capital. Marx dit « Jusqu'alors, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Maintenant, il s'agit de le transformer. Cette harangue est restée célèbre. Mais comment transformer ce que l'on connaît à peine? Cette volonté prométhéenne de brûler les étapes sera la source de cruelles déconvenues au XXe siècle. Avant de chercher à transformer le monde, mieux vaut d'abord chercher à savoir vraiment ce qu'il est. Sinon, l'on ne maîtrise rien, l'évolution demeure mystérieuse et l'on ne peut devenir maître de son destin, c'est-à-dire libre. » J'ai été un peu longue, mais je vous remercie de votre attention.
C'était Bérénice Tournafond pour une introduction générale du colloque. Laissons tout de suite la place au philosophe Pierre Manant pour évoquer la place de la politique dans la vie humaine.
Je me contenterai d'évoquer de la manière la plus claire, mais en même temps la plus rapide possible, la place de la politique à l'époque contemporaine. L'expérience du XXe siècle, si on peut la résumer d'un mot, sera, pour son malheur ou pour notre malheur, l'expérience, aura été l'expérience de la politisation extrême de l'existence, de la politisation extrême de la vie. C'est cela, au fond, qui distingue le totalitarisme, ce que l'on a appelé, ce que l'on a dû appeler d'un nom nouveau, le totalitarisme, des tyrannies ordinaires. Le tyran se contente d'assujettir le corps social à ses intérêts, ou à ses passions. Le totalitarisme va au-delà, il réclame, si j'ose dire, toutes les vies et toute la vie pour une idée politique, ce que l'on a appelé une idéologie. Même la science, fierté de l'homme moderne, vérité enfin incontestable, en laquelle tous peuvent et doivent s'accorder, à la différence des religions qui séparaient les hommes, la science portait la promesse de les réunir, eh bien, la science elle-même, au XXe siècle, fut par le totalitarisme politisé, par la distinction, par l'un des totalitarismes entre science bourgeoise et science prolétarienne, par l'autre entre science juive et science arienne. Cette extrême politisation de l'existence, avec les catastrophes inouïes, encore incomprises si j'ose dire, encore non mesurées ou si difficiles à mesurer qu'elle a produite, eh bien, cette expérience a suscité ce contre-coup que nous connaissons ou sous l'influence duquel nous vivons encore. Le contre-coup de cette expérience, en effet, en tout cas en Europe, terre des totalitarismes, terre de la politisation extrême de la vie humaine, est un désir très profond, très sincère, de dire, au contraire, adieu à la politique. Adieu à la politique, la vraie vie est ailleurs, c'est bien cela que l'expérience des générations précédentes a éprouvé. Je n'en veux pour preuve que le dernier grand mouvement de politisation de nos vies, qui, pour ma génération, et peut-être pas simplement pour la mienne, est le mouvement de mai 68, mouvement de politisation apparemment exacerbée de la vie humaine, politisation de la sexualité par exemple, chose jusque-là la plus privée, et c'est en 68 que l'on déclare ou découvre que ce qui est personnel, c'est cela qui est politique, ce personal is a political, eh bien, paradoxalement, comme on peut l'observer, ce dernier grand mouvement de politisation mai 68, inaugure ce qui est, depuis 40 ans, la grande privatisation de l'existence. Qu'est-ce aujourd'hui que l'ordre public, de plus en plus ? Quel en est le contenu ? Eh bien, nous le savons, c'est la mise en lumière et la mise en scène de ce qui est le plus privé. L'ordre politique devient de plus en plus l'éclairement, si j'ose dire, l'éclairage jeté sur les vies privées. Le terme, si j'ose dire, le plus révélateur de l'innovation sociale que nous connaissons, le terme dans lequel se concentre la nouveauté, l'étrange nouveauté de la vie sociale que nous connaissons depuis au moins 40 ans, c'est, je dirais, « coming out ». J'ai lu récemment dans un hebdomadaire que les catholiques, aujourd'hui, faisaient leur « coming out ». Il y a quelques générations encore, ils se convertissaient ou ils confessaient leur foi. Aujourd'hui, ils font leur « coming out ». Si j'ose dire, illustration dans le langage journalistique très révélateur du ressort très profond de la vie sociale aujourd'hui, de sa dépolitisation, le seul contenu que la société parvient à mettre à son existence collective, c'est l'éclairage jeté sur les vies privées. C'est le passage de la vie privée à la vie publique. Ainsi, à l'échelle d'une vie humaine, et même d'une vie humaine pas si longue, l'Europe a connu une immense oscillation, allant de la plus extrême politisation des totalitarismes à ce qui apparaît comme une extrême dépolitisation ou privatisation de l'existence humaine. Et si l'extrême politisation des totalitarismes s'est révélée, personne, je pense, ne le contestera, sauf peut-être Alain Badiou, si l'extrême politisation des totalitarismes s'est révélée catastrophique, on peut se demander comment l'extrême dépolitisation que nous connaissons aujourd'hui est seulement possible. Comment pouvons-nous vivre, ou pouvons-nous vivre longtemps, ainsi privatisés, ainsi privés de choses communes ? Or, nous le constatons ensemble, nous vivons bien ainsi, et pas si mal, depuis 40 ans. L'Europe a découvert, nous avons découvert, nous Européens, ou nous avons cru découvrir, qu'au bout du compte, on pouvait vivre sans politique. Et en somme, sans gouvernement proprement dit, ou sans gouvernement au sens fort du terme. C'est cela qui est, je crois, au fond de la grande vague libérale qui l'a emporté, y compris en France, y compris à gauche, et parfois plus à gauche qu'à droite. Quel est ce mystère ? Quel est ce mystère social qui est derrière cette grande vague libérale qui, depuis plusieurs décennies maintenant, ordonne en quelque sorte le regard que nous portons sur la vie collective. Bien, ce mystère a un nom, ce n'est pas libéral, ce n'est pas libéralisme, ce mystère a le nom de société, ou plus précisément de société civile. La société civile qui, à nos yeux, se suffit à elle-même, qui se suffit à elle-même sans la direction de l'État, la société civile qui est à la fois l'élément et les guides de notre action. Vous le savez, la société civile ne saurait se tromper. L'expression, cependant, est lourde d'équivoques. Et pour comprendre ce qui s'est passé, je crois qu'il vaut mieux ne pas utiliser le terme de société civile, même si il a un pédigré philosophique incomparable. Il vaut mieux user d'un autre terme, un peu désuet, et c'est celui de civilisation. Pourquoi vivons-nous ou pensons-nous que nous pouvons vivre sans politique ou avec un pouvoir ou une influence du politique sans cesse diminuant ? C'est parce que, je crois, nous pensons, en tout cas nous parions, que le processus de civilisation se suffit à lui-même. Par-delà toutes les oppositions politiques, philosophiques, aussi par-delà toutes les différences entre les pays anglo-saxons et les pays latins ou les pays continentaux, il y a une sorte de pari commun en Europe depuis plusieurs décennies. C'est que le processus de civilisation qui nous porte se suffit à lui-même. Alors bien entendu, ce processus de civilisation peut être interprété, formalisé, décrit en des termes différents. Il peut être décrit en des termes plus strictement économiques. Et dans ce cas, On parlera du marché, de la concurrence, et les économistes libéraux expliqueront comment le marché, par lui-même, est le grand instrument d'orientation et de régulation des vies qui se suffit à lui-même, ou qui potentiellement se suffit à lui-même, et qui, s'il n'était pas perturbé par ces politiques toujours mal inspirées, eh bien, nous permettrait de vivre dans l'harmonie économique, morale et sociale. Mais cela, c'est la version, si l'on veut, des économistes, ou si l'on veut, des libéraux, ou si l'on veut, de la droite ou d'une certaine droite, mais la gauche n'est pas en reste dans sa confiance envers le processus de civilisation qu'il nous porte. Elle emploie simplement des termes plus sociaux ou plus moraux. Elle parle de la bonne gouvernance, elle parle de la conduite citoyenne, et elle parle plus généralement de la démocratie. Mais la démocratie, conçue en un sens très nouveau, ou en un sens en tout cas qui est nouveau dans l'accent qui est mis sur cet aspect de la démocratie, non plus la démocratie comme régime politique, mais la démocratie comme sentiment social, comme sentiment moral, et pour en donner la formule la plus synthétique et la plus éclairante, c'est la formule de Tocqueville, la démocratie comme sentiment du semblable. Eh bien, nous avons le sentiment que le processus de la civilisation démocratique, porté par le sentiment du semblable, se répandant de proche en proche, à partir de ce noyau des nations européennes qui ont décidé de se réunir après la guerre, autour du Rhin, n'est-ce pas ? Eh bien, de proche en proche, le sentiment du semblable va recouvrir, comme une vague, l'Europe d'abord, l'Europe tout entière, et puis, ultimement, le reste du monde. Droite, gauche, centre-droit, centre-gauche, anglo-saxon, latin, rhénan, nous sommes tous d'accord pour trouver à la fois le problème et la solution dans l'immanence du processus de civilisation. Encore une fois, processus économique, social, moral. Telle est notre conviction commune, telle est, à mes yeux, notre grande illusion. Cette illusion porte des noms divers, elle peut porter le nom grandiose d'Europe, ou plus grandiose encore, de mondialisation. C'est la même illusion de la suffisance à soi, de l'immanence essentielle du processus de civilisation. Pourquoi illusion ? Tout simplement parce que, en tout cas c'est la thèse que je soumets, sans pouvoir évidemment argumenter suffisamment pour elle, on n'échappe pas à la politique, même en se cachant dans le processus de civilisation. Celui-ci doit être non seulement protégé par la politique, mais en vérité institué par l'ordre politique. Alors, c'est une affirmation évidemment dogmatique telle que je la formule ici, et je ne pourrais convaincre les sceptiques parmi vous en citant Aristote. D'ailleurs, depuis Molière, on se ridiculise, n'est-ce pas, en citant Aristote. Je pourrais expliquer cependant que l'ordre humain trouve sa forme dans l'ordre politique, qui est toujours une certaine organisation du commandement et de l'obéissance. Mais pour ne pas gaspiller le peu de temps que j'ai à ma disposition, je partirai donc de ce que nous croyons nous-mêmes déjà, de ce que nous attendons de l'ordre collectif, alors que d'une part, nous faisons confiance à ce processus de civilisation, à ces règles communes qui doivent porter notre vie commune, nous croyons en même temps, nous réclamons en même temps de l'ordre commun qu'il soit, comme nous disons, représentatif. Nous demandons que l'ordre politique, que le gouvernement, que les institutions soient représentatifs de la société. Nous leur demandons d'être représentatifs, par exemple, de la diversité sociale. Donc, nous avons toujours des exigences politiques ou des réclamations politiques, des revendications politiques. Nous continuons de réclamer un gouvernement représentatif, plus représentatif, enfin représentatif, et nous nous plaignons sans cesse que le gouvernement ne soit pas assez représentatif, et nous ne cessons de reprocher à nos représentants de ne pas nous représenter suffisamment ou de nous représenter mal. Bref, quoique d'un côté nous ayons cette confiance, cette foi dans un processus de civilisation qui se passerait en quelque sorte de tout gouvernement, d'autre part, nous réclamons un gouvernement représentatif. Notre être ensemble, si je puis dire, nous le cherchons obscurément, mais je crois que l'observation naïve, si je peux dire, de la vie commune, de la vie collective, en témoigne. Nous le cherchons à la rencontre de ces deux grandes instances que sont d'un côté le processus de civilisation, de l'autre, le gouvernement représentatif. Or, ces deux grandes choses doivent être compatibles, vous en conviendrez, si l'on veut que la vie commune ne soit pas trop déchirée. Elles doivent être en tout cas rendues compatibles et même céder l'une l'autre. C'est quand le processus de civilisation d'un côté et le gouvernement représentatif de l'autre sont en accord, ou pour l'essentiel un accord, dans un accord dynamique, c'est dans ces moments qu'on a le sentiment exaltant du progrès, comme pendant la grande période de la construction des démocraties modernes au XIXe siècle. Et il y a des moments où les deux instances, l'instance donc proprement politique et le mouvement de la civilisation, semblent entrer en contradiction, lorsqu'il semble que la politique se détache du processus de civilisation et se retourne contre lui. C'est bien sûr le cas des totalitarismes, mais c'était déjà, à certains égards, le cas de l'Empire napoléonien, tel que Benjamin Constant avait diagnostiqué le caractère, anachronisme politique allant à l'encontre de la civilisation moderne. Les deux instances entrent aussi en contradiction lorsque, inversement, le processus de civilisation rejette, écarte avec mépris l'instance politique. Eh bien, je crois que telle est notre situation. Le processus de civilisation et les, je n'ose dire la classe dirigeante, parce que c'est un terme politique, mais disons, ceux qui conduisent le processus de civilisation tentent à écarter avec mépris l'instance proprement politique. Or, je l'ai dit à l'instant, nous ne pouvons pas échapper aux exigences inscrites dans le régime représentatif qui est le nôtre. Dans le régime représentatif, on peut dire dans le régime libéral, dans le régime démocratique, bref, dans notre régime. Qu'est-ce qui caractérise ce régime ? Ce n'est pas seulement qu'il garantit les droits des sociétaires, les droits de l'homme et du citoyen, c'est qu'il est, je l'ai dit, représentatif, c'est-à-dire expressif d'un ensemble, c'est-à-dire d'un tout. Nous pouvons être aussi individualistes que nous le souhaitons, ou alors que nous le déplorons, mais notre régime démocratique, représentatif, libéral, en tant que régime politique, est nécessairement holiste. Il représente, il organise, il fait se gouverner elle-même ou lui-même un collectif humain, une chose commune. Ce collectif, ce tout, peut être aussi ouvert qu'on l'imagine, et nous souhaitons que notre collectif, notre tout, soit aussi ouvert que possible. En même temps, il doit être évidemment un pour être. Comme aurait dit Leibniz, il doit être aussi, donc, en même temps qu'il est ouvert, il doit être aussi nécessairement fermé. Pour le dire en usant d'un terme qui est devenu péjoratif, et qu'on hésite à employer en bonne compagnie aujourd'hui, le régime politique, notre régime politique, organise encore et nécessairement, et représente encore et nécessairement, et permet que se gouverne encore et nécessairement un peuple. Je connais l'objection, et je la formule de la manière la plus sobre, donc à mon goût la plus persuasive. Soit, me dira-t-on, tout cela est vrai, mais nous savons les dangers contenus dans la notion, dans la réalité, d'un peuple, et étant entendu que nous perdons quelque chose, me dira-t-on, à abandonner la partie de la démocratie qui résidait dans le gouvernement de soi par soi, dans le gouvernement du peuple par le peuple, nous gardons du moins aujourd'hui l'autre moitié, la protection des droits par le processus de civilisation. C'est un compromis raisonnable, dira-t-on, et c'est en vérité le seul possible. Cette objection est très forte, c'est l'objection de la nécessité. C'est l'objection de la condition historique. Mais je ferai les remarques suivantes sur lesquelles je conclurai. La question est ouverte de savoir combien de temps le processus de civilisation est capable de protéger les droits, y compris les droits individuels, en l'absence d'un gouvernement vraiment représentatif. On voit déjà à quel point en Europe, la première liberté, la liberté qui a fait l'Europe libérale, la liberté de parole et d'opinion, est restreinte au nom de ce qu'on appelle le politiquement correct, qui est le complément, la police nécessaire, car le politiquement correct a un rôle politique, un rôle de police, la police nécessaire d'un processus de civilisation qui n'est plus gouverné par une politique représentative. Nous nous applaudissons de vivre, donc, sous un despotisme éclairé, et à mon goût, de plus en plus despotique, de moins en moins éclairé. Quelque chose de plus profond que la liberté risque d'être atteint dans ce triomphe de la civilisation sur l'ordre politique, quelque chose sinon de plus profond qui est en tout cas à la racine de ce qui rend la liberté désirable, à savoir la capacité humaine d'action. C'est une chose très mystérieuse que cet attribut spécifiquement, exclusivement humain. Ni les animaux, ni les dieux n'agissent, c'est une remarque d'Aristote. Eh bien, qu'est-ce que l'expérience humaine nous enseigne ? C'est sur cette proposition que je terminerai mon intervention. L'expérience humaine, me semble-t-il, nous enseigne, au moins depuis les grandes créations grecques et romaines, c'est que les grandes actions, politiques et religieuses d'ailleurs, sont liées à la chose publique, à la chose politique ou religieuse. La grande action est action sous le regard du peuple, le peuple laïque ou le peuple religieux, laos ou ecclésia, la grande action exposée à la louange ou au blâme du peuple. La civilisation, y compris notre civilisation, ordonne les petites actions, la politique réclame les grandes actions. La civilisation est sûre, toujours plus sûre, la civilisation cherche la sécurité, l'assurance, la politique est dangereuse, c'est vrai, mais si l'on renonce à ce risque, on renonce à la source principale de ce que Tocqueville appelait la grandeur humaine. Je vous remercie.
Ainsi termine Pierre Manant sur la question de la place de la politique dans la vie humaine. Restez en notre compagnie et téléchargez sans plus tarder les trois autres volets du colloque « Regard sur l'homme contemporain » consacré à la politique et aux médias. Retrouvez notamment les interventions de Monique Cantos-Perber, directrice de l'ENS, François Daubert, ancien ministre, et Alain Berthoz et Philippe Kourilski, tous deux membres de l'Académie des sciences. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.